Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour le 10h midi, on est ensemble pour commenter l'actualité avec aujourd'hui Mathieu Alterman. Bonjour, vous
bonjour.
Êtes journaliste, auteur, vous avez même écrit un livre sur Johnny Hallyday, si
oui,
je ne m'abuse.
Oui, qui sort le 19 octobre.
Donc, ça tombe très bien alors. Judith Weintraub, grand reporter au Figaro Magazine, bonjour.
Bonjour Valérie.
Benjamin Lucas, membre de Génération.S, vous êtes ancien président du MJS, Mouvement des Jeunesses Socialistes.
Bonjour.
Et Matteo Ghisalberti, bonjour, vous êtes journaliste franco-italien, rédacteur en chef de Putsch, qui est un nouveau média franc-tireur qu'on trouve sur Internet.
Exactement, bonjour.
Bonjour, alors comme tous les jours, vos coups de cœur, vos coups de gueule, vous pouvez également nous appeler 0826 300 300 pour réagir. On parlera également du volte-face pour le moins étonnant de Yaël Braun-Pivet.
Volte-face au masculin, ça commence. C'est pas écriture.
Une volte-face.
J'ai dit quoi? Volte-face.
C'est une volte-face ou un volte?
Une volte-face.
Ah bon, j'ai fait une faute. Vous voyez, l'écriture inclusive,
entier,
ça permet de dissimuler ses lacunes en orthographe et en vocabulaire. Donc, volte-face, pour le moins étonnant, de Yaël Braun-Pivet, qui donc maintenant soutient Richard Ferrand après avoir dénoncé le vieux monde, l'ancien monde. Enfin, on va y revenir. On va parler de la proposition de loi d'un député qui veut obliger les entreprises à publier les écarts de salaire. Qu'en pensez-vous? Et puis, on va parler de l'écriture inclusive. Le Figaro y consacre sa une aujourd'hui, cette écriture inclusive qui commence à faire son petit bonhomme de chemin. Donc, dites-nous ce que vous en pensez. 0800 26 300 300. On va commencer avec les coups de gueule ou les coups de cœur. Encore beaucoup plus de coups de gueule cette semaine. Je ne sais pas pourquoi. J'ai des chroniqueurs râleurs. Judith, on va commencer avec vous.
Non, j'ai cherché un coup de cœur et puis...
Ça m'étonne pas de vous.
Et puis le coup de gueule, vous allez voir, alors c'est pas drôle du tout. C'est un vrai combat féministe. Ça, c'est par rapport à l'écriture inclusive. C'est une pratique qui s'appelle le repassage des seins, qui est ancienne et qui sévit toujours, notamment au Cameroun, où en fait, les petites filles, entre 8 et 10 ans, se font brûler les seins par leur mère ou par une femme de leur famille pour les rendre moins attractives, pour pas qu'elles se fassent agresser, violer. Ça concernerait à peu près 12% de la population féminine. C'est épouvantable. Le gouvernement nie que ce soit un phénomène de société. Or, ça fait une pratique ancestrale qui existe. Et une fois de plus, ça fait porter à la femme la responsabilité de l'agression et du comportement violent et criminel des hommes.
Oui.
Donc ça convainc les petites filles de l'idée que c'est leur faute à elles et qu'il faut qu'elles fassent quelque chose.
C'est
atroce.
C'est effectivement une pratique qui existe depuis très longtemps, mais il n'y a pas grand-chose qui est fait.
Non, alors il y a quelques associations. Il y a une association qui s'appelle les Tantines, qui essaye de faire quelque chose, parce que ce sont les mères ou les grand-mères qui font ça, de leur dire que, évidemment, ça provoque des problèmes psychologiques et de santé énormes, ça favoriserait le cancer du sein, ça empêche l'allaitement, enfin, c'est un truc abominable. Et j'aimerais bien qu'en France y compris, puisqu'on a quand même des liens très privilégiés avec le Cameroun, on entende parler de ça et on se mobilise contre ça.
Une réaction?
Non.
Alors on devrait faire des slips avec des coques en métal pour les mecs, en fait, c'est ça, finalement?
Oui, c'est ça. ou leur mettre une burqa. Ça peut être une proposition. Une réaction? Non,
c'est triste de voir qu'encore une fois, effectivement, se porter le chapeau aux femmes parce qu'elles sont des femmes.
Ah oui, mais ça fait un moment que ça dure dans plusieurs domaines.
Oui.
Mathéo, justement, votre coup de gueule à vous.
Coup de gueule sur l'interdiction, l'annulation de l'exposition de Marceau, du dessinateur de bande dessinée Marceau, et de la lecture du livre de Oberton au théâtre de l'Atelier. Je pense que
Expliquez un petit peu qui est Marceau et pourquoi
Marceau,
c'est interdit.
C'est un, c'est un dessinateur de bande dessinée qu'on peut qu'ils ont traité de controversé, etc. Mais de toute façon, il est un dessinateur exactement comme beaucoup d'autres. Il avait organisé une exposition
vente. Mathieu n'est pas tout à fait d'accord.
Exposition vente à Paris et les deux et cette exposition vente et une et la lecture du livre de Laurent Berton ont été annulées à cause de menaces qu'ils ont reçues via les réseaux sociaux, de menaces dans lesquelles on parlait effectivement de choses très violentes. Les deux, en particulier Marceau, n'était pas nouveau à ce type de traitement de la part des réseaux sociaux. On l'avait menacé de lui couper les mains pour lui empêcher de faire ses dessins. Moi, je suis pas toujours d'accord.
Il est qualifié d'extrême droite. Hein.
Il est qualifié par qui d'extrême droite?
Oui, parce qu'il faut préciser, pardon, Mathéo, que ce sont les antifas.
Voilà. Enfin, en tout cas, ils sont très démocratiques. Voilà. D'ailleurs.
Non, mais, attendez, la liberté.
Moi, je suis pas pour Mathieu la censure, Alterman. Bien entendu. Mais le problème qui se pose, c'est quand un dessin, par exemple, de Rezer fait marrer tout le monde, le même dessin fait par un type qui est ami avec Alain Soral ou Dieudonné, bah, ça fait moins rire. C'est tout le problème. C'est que vous pouvez raconter une blague raciste avec votre pote. Si c'est Jean-Marie Le Pen qui vous dit la même blague raciste, elle est moins drôle.
Oui, mais en France, on est dans une démocratie, je pense. Si on estime qu'un dessin, un écrit, une expression est anti quelque loi, on peut saisir la justice. C'est ça qui a le droit de prendre des mesures.
Vous êtes en train de dire qu'on rentre dans une période un peu de censure sur certains sujets, parce que Berton dit des choses qui ne plaisent pas non plus forcément.
D'accord, mais si on a des doutes, on va saisir la justice.
Non, mais le problème, alors, il n'est pas là, c'est qu'il y a plein de gens, énormément de ses fans, ne savaient pas qu'il avait à ce point-là des proximités avec l'extrême droite. Si ça permet de le savoir aujourd'hui, je suis pas pour la censure, au moins maintenant on le sait.
Je suis pas là pour défendre ni Marceau ni Oberton. Je défends tout simplement le droit de s'exprimer. Moi, je suis souvent en désaccord avec Charlie Hebdo, mais je défendrai bec et ongle le droit de Charlie Hebdo de dessiner ce qu'ils veulent.
Je disais tout à l'heure. Avez un dessin fait par Charlie Hebdo qui est un petit peu limite et le même dessin par un type qui est proche de l'extrême droite, ça peut pas faire rire de la même façon.
Mais c'est pas la question. Ça. La question, c'est est-ce qu'on a le droit de faire des menaces de mort?
Non, ça, on n'a pas le droit. On n'a clairement pas le droit de le censurer, mais il faut rappeler que peut-être ce type n'est pas toujours au second degré. Vous voyez?
Alors, on saisit la justice.
Les dessinateurs dits de gauche ne sont pas forcément non plus au second degré.
Enfin, il y en a rarement qui sont proches de gens comme Dieudonné ou Alain Soral. Là, on n'est pas. Ça rigole pas quand même.
Quand on.
Oui, moi je pense que partout on peut démasquer l'extrême droite, il faut le faire. Après, effectivement, moi, par principe, les menaces de mort, c'est pas ni ma culture ni ce que j'approuve. Il faut les condamner partout et sur tout ça. Il faut sans doute réfléchir à ce qu'est notre arsenal judiciaire pour combattre l'extrême droite et ses idées partout où elles se propagent.
Oui, mais là on en est à l'interdiction d'une exposition, l'interdiction d'une lecture,
c'est
d'un
pas
texte.
Une interdiction parce
c'est,
que,
c'est une annulation.
Suite à des menaces, y compris contre les caissières du théâtre de l'Atelier.
Tout à fait, qui font leur travail.
Donc après, c'est
nos amis antifa.
Ouais, courage ou non, enfin le courage d'aller au bout.
Et ces menaces aussi sont passibles de poursuites, d'ailleurs.
Ouais. Voilà. Ouais. Non, mais
Dire, c'est que quand Médine, en revanche, est annoncé au Bataclan, là, les mêmes antifa n'ont aucune critique. Donc effectivement, c'est pas normal. Il y a un moment, il faut... Soit on est contre toute forme d'extrémisme, soit
absolument.
Pour toutes. Voilà,
Benjamin Lucas.
Moi, je crois qu'il faut distinguer ce qui relève de droit légitime de manifester. Moi, je pense que je suis pas spécialiste du sujet que vous évoquez, mais si on a envie de manifester devant le théâtre parce qu'on juge l'œuvre, parce qu'on juge l'art choquant, on peut le faire, effectivement. Et d'ailleurs, il ne faut pas s'en priver dans bien des cas, mais effectivement, jamais la menace de mort ou jamais l'intimidation de salariés n'est une chose justifiée ou justifiable. En tout cas, jamais je ne la justifierai, même sur des combats que je peux partager.
Oui. Benjamin Lucas, votre coup de gueule?
Alors, coup de gueule et coup de cœur. Mêlé chez moi à Amiens depuis 85 jours et 56 nuits, les agents de l'hôpital psychiatrique Philippe Pinel sont en grève et coup de gueule.
Dans la différence la plus totale.
Coup de cœur pour. On est allé avec Benoît Hamon il y a 3 jours, mais coup de cœur pour les familles qui les soutiennent, pour les collectifs de familles, pour ces agents qui passent des nuits sous tente devant leur hôpital, qui ont occupé l'Agence nationale de santé et qui font face, comme on l'a vu à Saint-Étienne-du-Rouvray, comme on l'a vu au Havre, au mépris et au silence de leur administration, de la direction de l'hôpital, de l'Agence régionale de santé et du ministère et d'Inès Buzyn. Et ils demandent quoi ? On est face à des gens qui ne demandent pas à devenir milliardaires, qui ne demandent même pas quelque chose pour eux-mêmes, qui demandent à pouvoir soigner dignement, qui demandent à pouvoir accueillir dans des conditions dignes, dans des conditions décentes, leurs patients, là où, manifestement, eux qui sont les en première ligne disent qu'il n'y a pas assez de moyens et là où les familles les rejoignent. Donc à la fois coup de cœur pour eux, leur transmettre à travers ce micro toute la solidarité qui doit être la nôtre, la mienne en tout cas, et coup de gueule contre les pouvoirs publics qui, au-delà des réponses qu'ils peuvent apporter, ne souhaitent même pas discuter, se mettre autour de la table et apporter justement des réponses et au moins une écoute à ce qu'est la souffrance de personnel et la souffrance des familles.
Mathieu Alterman, vous pouvez réagir?
Non. Ah non, non, bah moi je vois pas. En fait, je me disais, je vois pas comment on peut être contre, en fait.
Non, non,
il y a des sujets comme ça.
Non,
bah, le gouvernement, en l'occurrence, lui.
Non,
oui.
Mais le coup de gueule, il est sur le fait que cet hôpital, moi j'ai découvert ça d'ailleurs hier, tout à fait par hasard, est en grève, ces hospitaliers sont en grève depuis 50 jours et qu'on en a très très peu parlé. Donc,
parce qu'il y a malheureusement, il y a des gens qui, quand ils font grève, font moins de bruit que d'autres qui parfois ont moins de raisons de la faire. C'est tout le problème de notre pays.
Alors, non, moi je pose pas les façons de faire grève. Ils ont une action qui, par ailleurs, devrait faire du bruit parce que ça fait quand même 56 nuits qu'ils passent devant leur lieu de travail, devant un endroit où on soigne les gens, etc., avec le soutien des familles, avec le soutien de beaucoup d'acteurs locaux, etc.
Oui, sauf que quand ils font grève, ça impacte moins sur la population que quand c'est un corps de métier où il y a plus d'impact sur la vie de tous les jours, tout simplement.
Ouais, mais assez peu relayé aussi dans la presse, cette grève. Votre coup de cœur, coup de gueule, non, ce sera un coup de cœur.
Mon coup de gueule, mais c'est beaucoup plus léger. Oui. Alors évidemment, vous l'avez souligné, je sors un livre sur Johnny Hallyday qui s'appelle Les larmes de Johnny le 19 octobre. Hein, je fais un peu ma pub. Et on a appris que le même jour sortait le disque posthume de Johnny. Titre de l'album, c'est un hasard total en plus, je dois dire. C'est vraiment le hasard total. Titre de l'album, Ah, j'ai un trou de mémoire pour dire à quel point c'est
Mon pays, c'est l'amour.
Je me suis dit, en fait, elle a confondu son mari avec Michel Thor ou Frédéric François, quoi. Parce que là, Johnny qui se donne une image de rocker, de cuir, etc. Mon pays, c'est l'amour.
Mais alors, c'est pas du Gilles Vigneault, Mon pays, c'est l'amour.
Non, mon pays, c'est l'hiver.
Oui, c'est l'hiver.
Mon pays,
exactement.
Ce n'est pas un pays, c'est l'hiver.
Voilà. Et en même temps, le public.
Mais c'est vrai que ça m'a fait penser à ça aussi.
Oui, mais Mon pays, c'est l'amour, il y a deux lectures. Soit, son pays, c'est l'amour.
Certains y ont vu un message subliminal par rapport au fils.
Voilà, par mon fils, son pays, c'est surtout là où le troisième tiers lui en retire le moins, mais c'est complètement ridicule parce que, au contraire, fallait jouer sur les failles, fallait faire un titre en disant je ne suis pas parfait, imparfait ou un truc un petit peu. Et ils vont juste dans où il fallait pas. C'est ça qui est extraordinaire. Et depuis hier,
Laura Smet qui est furieuse et qui dit que ce n'est pas le titre qu'il voulait.
C'est-à-dire que Laetitia et tout ce système de communication, on n'a jamais vu ça. Ils tiennent vraiment le bâton, pour se faire battre. C'est toutes les erreurs à ne pas faire, ils tombent dedans. Et je pense qu'on va se régaler dans
Vous
le procès.
Vous pensez qu'ils n'ont pas respecté la volonté de Johnny Hallyday? Elle dit que son père aurait voulu Made in Rock'n'Roll.
Bien sûr, jamais son père aurait accepté. C'est un titre aussi, mais qui fait variété ridicule, qui n'est pas du tout en rapport avec le personnage, et qui fait rire tout le monde sur les réseaux sociaux.
Mais peut-être que sur la fin de sa vie, Johnny devenait un peu sentimental, je ne sais pas.
Franck Michael.
Oui, non, je ne sais pas. Vous avez des échos sur l'album?
Ouais.
Il paraît qu'il est bien.
Non.
Bon.
L'album n'est pas bien ou pas bien.
J'adore parce que j'entends que des gens de la géographie de Johnny Hallyday. J'ai la larme à l'œil, c'est formidable.
Blague. C'est les mêmes gens qui ont fait les albums précédents de Johnny qui sont passés inaperçus sans le moindre tube. Donc c'est exactement pareil, sauf que la différence c'est que Johnny n'est plus là.
Je sens que vous êtes de parti pris parce qu'il y a quand même eu plus de tubes qu'avec l'album de M quand même, qui avait été complètement
Johnny
bidon.
Hallyday au début
de
des 2000.
De l'amour, ça a marché.
Ça n'a pas. Johnny Hallyday, quand il a quitté Universal pour Warner, a enchaîné des albums, il n'y avait plus de tubes. Plus. Le dernier vrai tube de Johnny Hallyday, outre Optique 2000, bien entendu, c'est Marie. Ouais. C'est Universal. Voilà.
Bon, les uns et les autres, l'album de Johnny, Judith, je sais que ce sujet allait vous passionner.
Oui, mais j'aime bien Johnny, mais j'ai pas entendu. Donc.
Non, mais le titre bon, Mon pays, c'est l'amour, c'est
naze.
C'est un peu ringue.
Faut qu'on ait dit ça.
Moi, je suis comme beaucoup de monde, j'aime beaucoup écouter Johnny Hallyday, je confesse, mais il y a quelque chose de fatigant à toutes ces polémiques, ces histoires de fric, etc. Bon, voilà, remettons les choses à leur place.
Mathéo.
À mon avis, on pourrait soupçonner que Laetitia Hallyday est en train d'attendre le prochain remaniement ministériel.
Mais vous disiez ça,
mon pays et l'amour. Voilà. Donc,
vous disiez ces histoires de fric, mais justement, le fait d'avoir choisi un titre aussi naze donne raison à David et Laura qui disent nous, c'est pas l'argent qui nous intéresse, c'est le contrôle artistique, dire oui ou non, on est d'accord ou pas. Et là, il ne serait pas d'accord. C'est ça qui est intéressant. Ça relance.
Elle le dit. Voilà.
Ben voilà.
Donc on n'est pas au bout des polémiques. Allez, on se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert.
De retour avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour commenter l'actualité. Alors moi aussi j'ai un petit coup de gueule, même un gros coup de gueule, ça me met dans une colère, vous pouvez pas imaginer. C'est le nouveau livre des professeurs Debré et Even qui est en train de sortir. Donc là ils sont invités partout, dépression, sur la dépression et les antidépresseurs. Et comme précédemment, avec leur précédent livre, ils avaient jeté le discrédit sur les médicaments et la cardiologie. Là, cette fois-ci, donc, médicaments, dépression, il faut tout jeter à la poubelle, c'est terrible. Et moi, je trouve, alors, au-delà de ce qu'ils disent, je trouve que de se servir de la santé et de balancer des choses comme ça, c'est totalement irresponsable de promouvoir, en gros, d'avoir une thèse qui va inquiéter tout le monde. Parce que c'est ce qui s'est passé la dernière fois. Quand ils ont parlé des antidiabétiques, des statines et autres, les gens ont jeté leurs médicaments à la poubelle. Et c'est ce qui risque de se passer cette fois-ci.
Et surtout, moi, j'ai envie de dire, quelle est leur légitimité réelle pour parler de ça? C'est pas parce qu'on a été docteur dans un secteur qu'on peut donner son avis sur un autre en énonçant non. Enfin, je veux dire, c'est comme les Bogdanov qui depuis des années font des livres scientifiques.
Voilà, ce sont les Bogdanov. Sont...
Mais voilà, le business des Bogdanov, c'est de faire des livres sur des choses qui ne sont pas prouvables. On peut pas dire c'est faux ou c'est vrai. On sait pas. Et eux, c'est la même chose. C'est lamentable. On joue avec les peurs des gens, mais en même temps, scientifiquement, la valeur est nulle.
Oui. Non, mais c'est Judith.
Oui, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, ils ont eu des ennuis avec.
Oui, ils ont été radiés une première fois. Enfin, interdit d'exercer, ça a été rétrogradé en blâme. Ils sont tous les deux à la retraite, donc c'est pas très grave. Mais enfin, si, c'est grave quand même que deux médecins balancent des choses pour faire peur aux gens. Je trouve ça terrible.
Ouais, moi, je crois qu'il faut faire attention dans un climat où on parle beaucoup des fake news, on parle beaucoup des théories du complot, etc., à toujours faire très attention non seulement à ce qu'on écrit, mais ça, on peut pas censurer ce qui est écrit, à ce qu'on diffuse, et puis aussi au crédit qu'on donne à ça, à la parole qu'on donne à ça. Ce serait pas inutile que dans les médias dans lesquels ils sont invités, ils aient face à eux des contradicteurs qui apportent un éclairage scientifique médical. Moi, je suis ni médecin ni scientifique, donc je ne prétends pas a priori qu'ils ont tort, mais ça serait bien qu'on ait en face d'eux, à chaque fois, quelqu'un qui révèle ce qui est aujourd'hui acquis ou admis.
Quand vous êtes en face, si vous leur mettez face à eux des psychiatres, ils vont dire, vous êtes... Parce que leur gros argument, c'est le lobby des labos.
Oui, alors moi, je pense qu'il y a des lobbies très puissants, etc., mais je pense qu'on peut pas raconter... Justement, si on veut combattre efficacement les lobbies et les intérêts financiers des lobbies, etc., il faut être sérieux. Et pour être sérieux, il faut aussi pas agiter les peurs et pas inquiéter et pas donner l'impression que tout est toujours pipé, qu'il y a des complots partout, etc.
Non, mais enfin, le lobby des labos, il faut arrêter avec ça. Ouais, les labos soignent des gens, quoi. Qu'on s'en prenne au lobby des joueurs de ping-pong
ou
de.
Oui, mais il y a aussi des intérêts financiers. Enfin, là, on peut être mesuré, voir la part des choses.
Il y a le lobby des laboratoires qui font de l'homéopathie qui est comme une escroquerie absolue. On ferait mieux de s'en prendre à ces gens-là plutôt qu'aux gens qui soignent vraiment les gens.
On s'en prend à ces gens-là.
Ils s'en sont pris aussi à ces gens-là.
Voilà, moi personnellement, je pense qu'encore une fois, pour revenir à ce que je disais au début, il faut avoir la liberté de s'exprimer. Après, oui, effectivement, s'il y a des instances qui peuvent prendre des décisions sur telle ou telle affirmation,
c'est sur la loi, ils ont été condamnés
après,
pour leurs propos.
Je me pose la question d'une façon aussi différente. Et si, finalement, un médecin doit attendre la retraite avant de balancer ce qu'il a appris derrière, parce qu'il y a des lobbies, effectivement.
Mais c'est très grave. Aujourd'hui, vous avez des gens qui ne veulent plus vacciner les enfants pour la rougeole parce qu'ils ont lu que ZZ coiffeuse à Limoges sur Doctissimo a dit que c'était pas bien. Enfin, on en est là, quoi. Ouais, c'est lamentable.
Justement, il faut du débat, il faut alimenter avec effectivement des arguments et des contre-arguments.
Sauf qu'aujourd'hui, la théorie du complot est beaucoup plus facilement acceptable et entendable. Si on vous dit tout est mauvais, jetez les antidépresseurs,
les vaccins,
oui, c'est ça,
la pilule pour les jeunes filles, combien de jeunes filles.
Mais moi, j'ai eu le débat en arrivant ici. On m'a dit oui, mais les antidépresseurs quand même, c'est vachement dangereux, etc. On dit pas le contraire, on dit juste que c'est de balancer un bouquin.
Ce sont les antibiotiques qui rendent malade, c'est pas la maladie.
Et il faut rappeler, faire le distinguo entre antidépresseur et anxiolytique, ce n'est pas la même chose. Quand vous prenez un calmant efficient, ce n'est pas bon. L'antidépresseur est là pour soigner sur le long terme avec un accompagnement thérapeutique, ça n'a rien à voir.
Oui, c'est des choses différentes, mais comme disait Benjamin Lucas, effectivement, n'étant pas médecin, j'aime quand deux médecins, par exemple, l'un qui est pour, l'un est contre, m'expliquent quelque chose. Oui. De toute façon, je ne vais pas jeter les médicaments si je dois les...
Mais
si
en général, c'est la présentation qui est faite dans les médias.
Est-ce qu'il est obligé de faire un livre pour le dire ou est-ce qu'il peut contribuer à des colloques, à des écrits scientifiques, etc.,
marrant,
plutôt qu'un livre qui se vend?
Voilà, c'est ça.
Moi, c'est ça qui m'interroge.
Je rappelle juste pour la crédibilité du professeur Even qu'il avait annoncé quand même en 85 qu'il avait trouvé un traitement contre le sida et que deux patients étaient morts. Bon, c'est peut-être pas très fair de dire ça, mais voilà, faut quand même, faut quand même rappeler l'Institut Necker qui porte le nom de l'hôpital Necker n'a rien à voir avec l'hôpital Necker. Enfin, il y a quand même des choses sur la crédibilité des gens qui écrivent ces choses-là.
Qui sort le livre? Moi, j'aimerais bien savoir qui sort le livre, parce que c'est que des gens signent ça, c'est ça qui me choque. À la limite, qu'ils l'écrivent, bon, mais
les éditions du Cherche Midi.
Voilà,
c'est pas bien.
Oui, c'est ça. Ce sont des pompes à fric, donc n'y allez pas, ne l'achetez pas, ça ne sert à rien.
Non, ça, je sais pas. Enfin, faites-vous une idée de.
vous achetez le livre, vous allez jeter vos antidépresseurs. Parce qu'il dit, il faut de l'écoute, il faut que les médecins écoutent. Bah oui, il y a 18 000 psychiatres en France, donc comment on fait?
Et surtout, les gens qui achètent ce genre de livre savent déjà ce qu'ils pensent sur le sujet, la plupart du temps. C'est ça, le drame.
Bien sûr. Allez, on se retrouve dans un instant, on va parler politique avec la volte-face de Yaël Braun-Pivet qui laisse la place à Richard Ferrand.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
De retour avec vous dans le studio de Sud Radio jusqu'à midi avec Mathieu Alterman, journaliste et auteur. Vous publiez un livre sur Johnny Hallyday qui paraîtra le 19 octobre. Voilà, on fait la pub.
Les larmes de Johnny.
Vous aurez le temps de revenir. Judith Weintraub, grand reporter au Figaro Magazine. Benjamin Lucas, membre de Génération.s et ancien président du MJS. Et Matteo Ghisalberti, journaliste franco-italien, rédacteur en chef de Putsch, un nouveau média franc-tireur. Voilà, qu'on retrouve sur Internet. Alors, revenons sur la volte-face de Yaël Braun-Pivet. Donc, Yaël Braun-Pivet, présidente de la Commission des lois à l'Assemblée nationale, qui était candidate à la succession de François de Rugy. Elle était hier matin chez nos confrères d'RTL. Écoutez ce qu'elle disait.
C'est là une certaine continuité. Richard était déjà député sous l'ancienne mandature. Il a rejoint effectivement Emmanuel Macron parmi les premiers et il est un personnage fort d'En Marche. Donc on ne peut pas lui contester sa volonté de renouveler les pratiques, mais il ne peut pas l'incarner puisque effectivement il ne fait pas partie de ces personnes qui ont été appelées de leur vœu par les Français pour renouveler la vie politique.
Voilà, il n'incarne pas le renouvellement promis. Et puis, patatras, à midi, elle a changé d'avis. Et d'un seul coup, Richard Ferrand devient le candidat idéal qu'elle soutient. Et écoutez, elle n'a subi aucune pression.
Personne ne m'a demandé de retirer ma candidature. Vous avez pu voir au cours de cet été que je n'étais pas une députée qui se laissait influencer par quiconque et qui ne subissait aucune pression et qui ne les acceptait pas ni ne les tolérait. Donc non, je n'ai reçu aucune pression.
Ouais, Benjamin Lucas, vous êtes.
Moi, j'ai une pensée très émue pour ceux qui sincèrement ont cru qu'un nouveau monde arrivait avec Emmanuel Macron. Parce que là, on a quand même Richard Ferrand. Quand même, il était jugé pas assez propre, pas assez honnête pour être ministre. Il est aujourd'hui soutenu par l'Élysée pour être président de l'Assemblée nationale. Peut-être le bruit des casseroles est un peu plus loin. Et Yaël Braun-Pivet qui dit qu'elle subit pas de pression. On a vu au moment de la commission d'enquête Benalla que c'était l'Élysée qui décidait qu'il y avait des choses ou pas. Mais tout ça est quand même terrible sur le signal que ça envoie, sur le fait que c'est le retour du vieux monde, des bruits de couloirs, des espèces de négociations d'arrière-cour, etc. Enfin, Richard Ferrand, il incarne cela. Ouais. Il incarne celui qui change de camp, etc. Bon, et donc, il va être président de l'Assemblée nationale. Et je crois, moi, plutôt là, dans le cas, de la sympathie pour Yaël Braun-Pivet, dont j'imagine qu'elles ont dû être, je n'ai aucun élément là-dessus, c'est une supposition de ma part, les pressions de l'Élysée, etc. Enfin, à partir du moment où Richard Ferrand était candidat, on savait que c'était le candidat d'Emmanuel Macron, mais moi j'avais entendu une promesse, naïvement, j'y avais cru, en disant De Rugy sera président de l'Assemblée nationale, mais il avait dit après moi, alors au début il avait dit à mi-mandat, puis après il avait dit on verra plus tard, une femme sera enfin présidente de l'Assemblée nationale. Et là, ça aurait été, au-delà du symbole, ça aurait été un acte politique très fort. Le premier personnage de l'État est un homme, le second est un homme, le troisième est un homme, le quatrième est un homme. Est-ce qu'on ne pouvait pas avoir à la présidence de l'Assemblée nationale une femme? Yaël Braun-Pivet, je suis en désaccord total politiquement avec elle, elle semblait en avoir la compétence, elle préside la commission des lois de l'Assemblée nationale, c'est pas rien. Non, c'est encore le retour du vieux monde qui s'accroche. Et c'est quand même, il sera élu, Richard Ferrand, je peux vous en faire le pronostic ici. Et puis c'est quand même, là aussi, l'incarnation, Richard Ferrand, du clan. C'est le clan Macron. C'est ce qu'on a eu avec Benalla, ce qu'on a avec la nomination de Philippe Besson, etc. C'est quand même un pouvoir qui sert d'abord son clan. Et Richard Ferrand, il fait partie du clan depuis le départ.
Oui. Judith Weintraub, vous aussi, vous pensez que Richard Ferrand sera élu sans aucun doute?
Oui, je pense aussi. Sans aucun doute. On est aux pensées émues. Ayant en une aussi pour Aurore Berger, qui expliquait très peu après que Yaël Braun-Pivet a annoncé sa candidature, que c'était formidable, c'était bien la preuve que tout était nouveau, que la compétition libre existait. Effectivement, ce sont des anciennes pratiques détestables. Moi, je ne suis toujours pas pour qu'on nomme une femme parce qu'elle est une femme à des postes à responsabilité éminente à l'Assemblée comme ailleurs. C'est le plus mauvais argument. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qui...
Mais je pense en l'occurrence que les femmes candidates ont plus de compétences pour le poste que Richard Ferrand. En tout cas, elles incarnent plus l'esprit de ce, qui est, de ce que voulait être Brune En Marche que Richard Ferrand.
Brown Pivet, c'est pas vraiment illustré pendant qu'elle conduisait les débats. Qu'elle co-conduisait les débats.
Barbara Pompili, qui est candidate également.
Qui est ma députée.
Alors,
Barbara Pompili, elle avait quelque chose de curieux, c'est quand même qu'elle défendait au moment de justement, là elle dit aujourd'hui, elle a raison, elle dit il faudrait qu'une femme, moi je pense qu'il faudrait qu'une femme soit présidente de l'Assemblée nationale, mais elle disait l'inverse au moment où elle soutenait Dorigy. Et Dorigy Pompili, c'est un peu les Thénardier de l'opportunisme et du reniement dans cette histoire.
Hein. J'ai un petit bémol à apporter, je pense qu'il y a un contresens. Je pense que les gens n'ont pas voté Macron en pensant que c'était la fin de l'ancien monde, contrairement à ce qu'on dit depuis ce matin. Pas du tout. Ils ont voté pour lui parce qu'ils en avaient marre des partis traditionnels de droite et de gauche.
De l'ancien monde.
Richard Ferrand, il est sur PS, c'était pas encore né.
Bien sûr, mais pas du tout sur la forme. Ils n'ont jamais voulu une forme différente. Je pense que réellement, on se trompe en pensant que les Français voulaient un truc complètement différent dans la forme.
De ce point de vue-là, ils sont servis. Alors,
pensent qu'ils allaient changer la forme,
pire que
ce sont
Hollande.
Les députés En Marche. Mais les électeurs savaient
que non. Le problème, à mon avis, c'est se situe plus en haut. D'un côté, moi, personnellement, si j'étais un député qui pouvait se porter candidat pour le perchoir, et si j'avais été aussi le président de la commission des lois devenue commission d'enquête, j'aurais pas osé candidater parce qu'honnêtement, quand on voit que tous les oppositions démissionnent, il y a un problème quand même.
Elle a été pathétique.
Voilà, première chose. Deuxième chose.
Moi, je pense pas que ce soit de sa faute. C'est parce qu'il n'y a pas de pouvoir législatif dans ce quinquennat.
Oui, mais le problème.
Parce que tous décident à l'Élysée.
Même
c'est
dans
Sarkozy,
les quinquennats précédents et dans celui précédent encore. Enfin, il y a un système qui est la 5e République où, malheureusement, moi je le dis, c'est un problème parce que je viens aussi dans un autre pays qui a plein de défauts, mais qui a une démocratie parlementaire. Et on a en pouvoir des oppositions qui font du contrôle. Là, on a stigmatisé tout au long de l'affaire Benalla, qui est très grave, je ne sais pas si c'est une affaire d'État, mais qui est très grave, on a stigmatisé les oppositions parce qu'elles critiquaient la majorité. Alors moi, à mon avis, il y a un problème parce que ce n'est pas normal quand même que le président de la République décide qui est le président de l'Assemblée nationale parce que c'est un pouvoir séparé. Oui. Mais bon, c'est comme ça.
Mais
après,
pas dans la réalité.
Dire une chose et deux heures après son contraire, personnellement, ça me laisse plutôt la bouche bée parce que je dis, mais comment c'est possible qu'on renie ses convictions sur l'espace de vraiment 120 minutes. Enfin,
c'est surtout qu'elle aurait mieux fait de dire effectivement, on a discuté, faut avouer à moitié pardonner, on va dire. Oui. Là, c'est parce qu'à la limite, là, elle passe vraiment pour quelqu'un qui change d'avis, c'est même moins simple.
Et puis, excusez-moi, la seule chose la candidature de Ferrand aussi, j'ai quelques doutes. Enfin, quand même, il a démissionné du poste de ministre parce qu'il y a eu ce problème avec les mutuelles de
Bretagne.
Parce qu'il
a été mis en cause.
Mais il y a toujours une enquête. Il y a toujours une enquête.
Moi, c'est ça, c'est le nouveau monde.
Mais il n'y a pas de nouveau monde. C'est comme l'éducation nationale. Vous pouvez faire les réformes que vous voulez à l'éducation nationale. La maîtresse aura toujours un chouchou. Et c'est pareil à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, le numéro 1, il aura toujours des choix qui n'auront rien à voir avec la question.
Oui, mais on était censé avoir changé.
Mais on n'a jamais changé.
Quand on décide de représenter des Français ou des citoyens en tant que député ou sénateur, excusez-moi, mais on devrait utiliser aussi un petit peu sa propre personnalité,
son
propre
cerveau. Dans un monde idéal, mais malheureusement...
Non, mais au lieu de dire ça sera toujours comme ça, mon pauvre monsieur, parce que là, c'est un peu...
Malheureusement, oui.
Oui, non, mais on va essayer de changer un niveau. Pardon. Mathéo a parfaitement raison de pointer une des aberrations de notre système, qui est que la majorité parlementaire, qui est toute puissante, la majorité à l'Assemblée nationale, devrais-je dire d'ailleurs, parce que le Sénat non, procède exclusivement du président de la République. Il y a le calendrier. Vous savez ce qu'on avait appelé l'inversion du calendrier, qui fait que autrefois des législatives pouvaient avoir un résultat différent et il y a eu cohabitation, il y a eu à ce moment-là rapport constitutionnel entre les pouvoirs, vrai équilibre. C'est terminé avec l'inversion du calendrier.
Prenez les États-Unis. Là, si les gens, si les Américains ne seront pas satisfaits de Donald Trump d'ici quelques semaines, ils vont voter contre lui.
Nous n'avons plus ce système en France depuis la version du calendrier.
Mais il faudrait revenir au septennat et abandonner le quinquennat.
Non, c'est aussi le quinquennat.
C'est l'ordre des élections, c'est pas la durée du mandat.
Allez, on va. Donc Richard Ferrand, vous êtes sûr qu'il sera élu?
Oui, il a son retour sur investissement. Il a soutenu Macron, Durand. Voilà, c'est bon. Retour sur investissement pour Richard Ferrand, ça ne changera pas grand-chose. De toute façon, le président de l'Assemblée nationale, dans le système Macron et dans la Ve République plus globalement, tout ne date pas d'Emmanuel Macron, évidemment.
Non.
Il ne sert à rien, si ce n'est à faire passer ce que veut le gouvernement. Donc, que ce soit Ferrand ou un autre, à la rigueur.
On va changer de sujet, on va se retrouver dans un instant avec cette proposition de loi du député La République En Marche, Mathieu Orphelin, d'obliger les entreprises à publier les écarts de salaire. Mais avant, on va jouer pour gagner un iPhone 8 reconditionné offert par Remade et Sud Radio. Appelez 0826-300-300. Nous tirons au sort le gagnant d'ici quelques instants. A tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
De retour avec vous dans le studio de Sud Radio. Ensemble, je vais avec vous jusqu'à midi. Vous retrouverez ensuite André Bercoff. Donc, on parle de cette proposition de loi qui viserait à obliger les entreprises à publier les écarts de salaire. Alors, je ne sais pas si cette loi a beaucoup de chances d'aboutir, mais vous pensez ?
Oui, je pense. Oui, parce que...
Elle est examinée cette semaine à l'Assemblée nationale. Donc, ça vise la transparence salariale.
C'est à l'intérieur de la loi Pacte.
Oui.
C'est une disposition qui ne suscite pas d'hostilité virulente.
Ça concerne les entreprises de 5000 salariés, de plus de 5000 salariés
dans le monde
et 1000 salariés en France. Voilà. Donc ça concerne pas mal d'entreprises.
Oui, enfin pas mal et en même temps pas beaucoup. C'est quand même des déjà très grosses entreprises, 1000 salariés. On est dans un système... où déjà le législateur a fait des choses pour essayer de réduire ces écarts salariaux, que ce soit pour des raisons sociales entre plus bas et plus haut salaire, ou pour des raisons de parité entre hommes et femmes. Vous savez que Muriel Pénicaud met en place ou voulait mettre en place, c'est en cours, je ne sais pas où ça en est en fait, un logiciel pour pouvoir permettre de calculer facilement les différences des rémunérations à poste égal, à travail égal. Pourquoi pas l'inégalité salariale entre hommes et femmes me paraît
juste combat. Mais qu'est-ce que ça va changer de publier le salaire le plus bas, le salaire moyen, le salaire le plus haut? Quelle indication et qu'est-ce que ça change dans l'entreprise?
À mon avis, ça peut marcher dans tous les sens, c'est-à-dire que ça met fin au fantasme, parce que les gens, de toute façon, fantasment beaucoup sur les salaires des hauts dirigeants et ne connaissent pas ou connaissent mal les lois en vigueur. Alors évidemment, en France, c'est jamais bien vu de gagner de l'argent. Ça peut aussi susciter des réactions de jalousie, des mouvements sociaux. Pourquoi pas
Alors, à mon avis, il y a toujours le thème, forcément. Enfin, c'est pas normal qu'on fasse porter, comme on disait tout à l'heure, pour une autre situation. Le poids et la faute d'être femme aux femmes, notamment quand il s'agit d'être dans un arrêt de maternité, etc. C'est pas normal encore que des femmes soient payées moins
Mais en quoi cette mesure va faire avancer les choses? Il y a de la transparence, il y a plus de transparence.
Que j'imagine une femme pourra aller à, par exemple à l'entretien de fin d'année d'évaluation en disant à son chef: t'es bien gentil, mais mon collègue qui fait exactement mon travail et qui d'ailleurs parfois ne reste pas jusqu'à tard parce qu'il a le souci d'avoir eu un pépin avec la
maison. Quelle ambiance, et vous savez ce qu'il vous répond le patron?
Valérie a raison. Le patron, il va dire: ah bon?
Et il assume déjà.
Moi, j'ai travaillé dans une entreprise où je savais pertinemment que les hommes étaient plus payés que les femmes.
Mais c'est normal, ça. Parce que, après, quand vous partirez à la retraite, votre retraite sera plus basse.
Ah, alors,
est-ce qu'il y a un dessin aussi? Parce que, les femmes ont une expectative de vie plus longue. Espérance de vie, pardon. Je parle un peu en italien parfois. Que les hommes. Ouais. Peut-être c'est parce qu'elles coûtent moins cher au système social.
Mais en quoi ça va faire? Moi, je suis tout à fait d'accord pour que les hommes et les femmes gagnent, qu'il y ait une égalité salariale. salariale. Mais en quoi cette mesure fait changer les choses, Benjamin Lucas? Alors,
effectivement, c'est insuffisant s'il n'y a pas derrière et des mobilisations sociales dans un ensemble d'entreprises quand on constatera des écarts trop importants, et j'y reviendrai, ou si on n'a pas une vraie politique, moi je le souhaite, pardon du gros mot, d'encadrement des salaires. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui que dans une entreprise, vous ayez un individu qui gagne 25-30 fois plus qu'un autre? Rien. Alors, c'est cette question-là, la question de l'écart global des salaires, et puis effectivement, la question de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, on peut le prendre par tous les sens, par tous les bouts. Moi, je pense qu'il faut stigmatiser les entreprises qui aujourd'hui. Qui aujourd'hui payent moins les femmes que les hommes. Et il faut aussi que les salariés sachent, et que tout le monde sache qu'il y a des entreprises où aujourd'hui, il y a des écarts de salaire qui sont insupportables. Moi, que tout le monde ne gagne pas la même chose. Moi, je ne suis pas pour dire que tout le monde doit gagner le même salaire.
Ah bon.
C'est pas ce que je dis. Absolument pas. Mais il y a des écarts qui sont indécents. Moi, c'est la question de l'indécence qui me pose sujet. C'est qu'est-ce qui justifie que dans une entreprise où on produit la même chose, où on fait, etc., quelqu'un gagne 30 ou 40 fois plus qu'un autre, ou 20 fois plus qu'un autre, ça interroge en tout cas. Et donc, faire un peu de transparence,
moi, ça ne me paraît pas. Évidemment, égalité salariale entre les hommes et les femmes, là, on est tous d'accord autour de la table. Mais maintenant, il y a quelque chose qui me dérange. C'est-à-dire que dans une entreprise, tout le monde est au courant du salaire des autres. Faut arrêter de se leurrer, les gens savent.
Je pense pas, moi. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes. Il y a énormément de fantasmes, mais je suis pas sûre.
Je suis pas d'accord. Je pense que plein de gens sont quand même, ils se parlent, sont un peu au courant.
Je dirais même des mythes, non seulement des fantasmes.
Mais moi, il y a un côté.
Radio Couloir n'a jamais été un instrument fiable d'information.
Non, mais même les gens le disent. Je pense que quand ils apprennent à se connaître, et au bout d'un moment, ils le disent. Je pense. Enfin, en tout cas, moi, à chaque fois, dans n'importe quelle entreprise, j'étais au courant.
On n'a pas travaillé dans les mêmes.
Mais maintenant, il y a un truc qui me choque, c'est ce côté de volonté de transparence absolue. C'est ça. Je pense qu'il faut effectivement légiférer, mais
non, pas légiférer, juste l'écart de salaire. On dit voilà combien gagne celui qui gagne le plus et voilà celui qui gagne le moins.
Je vois pas
ça,
pourquoi
exemple,
quelqu'un qui ne travaille pas dans l'entreprise en question puisse être au courant des chiffres. C'est ça qui me gêne. Ah, voilà.
Disons que
ça, je pense qu'il y a quand même
le fait de mettre en clair que une fonction dans une entreprise est payée un certain montant, peut éviter toute cette entre guillemets discrimination positive ou négative. Par exemple, ils font un directeur femme parce que c'est une femme. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure
ce qui est détestable.
Exactement, qui nuit aux femmes, à la cause de l'égalité. Et puis, de toute façon, il y a aussi le fait que il faut revenir au mérite, par exemple. Enfin, moi, personnellement, je suis pas trop choqué. Enfin, oui, si les écarts sont énormes, s'il y a 1000 fois plus que le dernier. Mais en même temps, je dis, si quelqu'un a le mérite d'avoir fait fait grandir une entreprise, conquérir des marchés, etc., je pense qu'on peut le récompenser. Certes, quand on voit des gens...
C'est très subjectif, le mérite. Hein. Il dépend du contexte, de vos conditions de travail,
de la
conjoncture économique.
Vous êtes
très prudent avec cette notion-là.
Maintenant...
effectivement, il faut peut-être plus rendre.
Quand
plus
il y a des patrons qui ont fait faillir aussi certaines entreprises, qui sont partis avec des retraites adorées.
Il y a des choses qui sont dures à quantifier. Quand vous êtes un commercial, c'est facile. Vous voyez en gros combien vous rapportez à l'entreprise. Quand vous êtes directeur de la communication, par exemple, directrice de la communication, c'est beaucoup plus difficile.
Je suis pas pour faire l'inquisition à l'euro près, je suis pour dire il faut regarder ce qui relève de l'indécence et ce qui relève
des écarts de salaire normaux. On parlait de déterminer en gros la valeur qu'apporte le salarié à l'entreprise. Il y a quand même des domaines où c'est très très subjectif.
Bien sûr, mais il y a des écarts qui sont tellement gros qu'on peut voir tout de suite qu'il y a un problème.
On a Olivier en ligne avec nous qui voulait réagir sur le sujet. Bonjour Olivier.
Bonjour. Alors plusieurs choses. D'abord, la transparence, elle existe dans les grilles de salaire de base qui existent dans les conventions collectives en règle générale.
Ça c'est plus pour la fonction publique.
Non, dans le privé, il y a des conventions collectives dans le privé. Non, c'est le principe. Hein. On est dans un principe de droit qui dit à travail égal, salaire égal. Ça, c'est la base. Ensuite, on est dans une société, dans un monde d'hommes, et dans une société très hypocrite. C'est-à-dire qu'en France, dans l'entreprise, il est beaucoup plus facile d'enfreindre les lois que de les faire appliquer. On manque cruellement d'inspecteurs du travail et c'est une galère, il faut aller au tribunal, c'est des procès qui mettent très longtemps, donc c'est très très compliqué d'obliger les employeurs aujourd'hui, c'est pour ça que je parle d'hypocrisie, à payer à travail égal, salaire égal, que ce soit entre les salariés ou tout simplement entre les hommes et les femmes, parce que c'est là qu'il y a les plus grosses disparités. Alors tout le monde est d'accord pour s'indigner et pour dire que c'est scandaleux, etc. Ceci dit, on donne absolument pas les moyens de faire appliquer ça. On est dans un pays où il y a 6 millions de chômeurs et on est en train de se débarrasser des inspecteurs du travail qui sont déjà pas assez nombreux. Ouais. Je donne un exemple, dans le transport, il y en a un pour 40 000 salariés. On pourrait faire de l'emploi là-dessus. C'est un choix politique. Le fait est, mais on est dans un monde d'hommes. Faut sortir de l'hypocrisie. Quant aux histoires de transparence, Enfin, moi, j'ai beaucoup j'ai du mal avec le mérite et avec la transparence. Voilà. Ouais. Moi, je pense qu'à un moment donné, on devrait pas avoir quelque chose à cacher de ce point de vue-là. C'est très français, ça, de vouloir cacher son salaire. Ouais. Là où les Américains, par exemple, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais eux ont pas de complexe à dire salut, je gagne autant. Ouais. Ils se présentent même comme ça. Voilà. C'est peut-être un peu tout.
Les entreprises américaines publient effectivement les écarts de salaire.
Et voilà. Je pense qu'à un moment donné, quand on publie les salaires, on est obligé de faire face à un moment donné. C'est une façon d'obliger, cette transparence, c'est une façon d'obliger à un moment donné de respecter cette loi française, encore une fois, qui dit à travail égal, salaire égal. Voilà. Bon. Donc, je pense qu'il faut sortir de l'hypocrisie et on est vraiment dans un monde macho. Voilà.
Oui. C'est ce que vous dites tombe sous le sens. Après, est-ce qu'il faut pas aller un petit peu plus loin, encore une fois, dans la transparence et dans l'action et dans le concret, quoi.
Ouais, je sais pas. C'est toujours très les gens qui ont travaillé là-dessus en ce moment, en fait, c'est une charte de bonne gouvernance qui dit que l'écart entre les salaires au sein d'une même entreprise, je ne parle pas de parité, hein, je parle d'écart entre plus bas et plus haut revenu, plus haut salaire. C'est une charte de bonne gouvernance, libre aux entreprises de l'adopter ou pas. Moi, je crois qu'effectivement, on est dans une époque où la pression de l'opinion, le name and shame dont nous parlions tout à l'heure, est un instrument très fort, ouais. Plus fort que la loi, plus fort qu'une loi qui, dans certains domaines, aura du mal à appréhender effectivement des notions difficilement évaluables et qui, en plus, risque de brimer la liberté d'entreprendre, la liberté individuelle. Dans ce pays, les chefs d'entreprise sont déjà assez enquiquinés. Je parle surtout des PME et des très petites entreprises. Leur rajouter des contraintes alors qu'elles en ont plein, qu'elles vont en avoir encore davantage avec le prélèvement à la source. Est-ce que c'est vraiment la bonne idée? Je n'en suis pas sûre.
J'ai un petit peu peur d'un excès de vertu et de transparence qui peut mener à des choses épouvantables comme on va dire que les gens qui fument travaillent une heure et demie de moins par jour, donc va falloir, on peut aller vers ça, c'est dangereux.
Oui, il y a eu des
propositions d'ailleurs, oui. Donc il faut être vigilant.
Bon, on n'aura pas eu le temps de parler de l'écriture inclusive, mais en tout cas le dossier du Figaro est très intéressant parce
qu'il
nous apprend que ça progresse. Je n'aurais pas cru cela et pourtant ça progresse.
Oui, la langue s'adapte avec la cause de l'égalité, c'est une bonne
mais
chose.
Mais je suis pas sûr.
L'idéologie de l'égalité, parce que l'idéologie, mais alors, non, la cause de l'égalité.
L'éditorial, je crois que c'est Étienne de Montetti, oui. Alors une femme ne peut pas être un génie.
Voilà, c'est ça. Mais c'est le celles et ceux d'Emmanuel Macron, ouais. Je crois, qui fait tâche.
Et visiblement, ça prend, puisque certaines entreprises s'y sont mises.
Et puis les ministères, malgré les préconisations d'Edouard Philippe,
normalement,
qui n'en voulaient
pas, être utilisé dans les
documents officiels.
Moi, j'attends qu'on change les titres de films, les tatas flingueuses, les
bronzés. Pour décrédibiliser ça, on tourne toujours en ridicule.
La bonne, le truand, l'histoire d'une bonne fille.
Moi, j'aime facile, mais l'égalité sont aussi des symboles forts. Une langue, elle s'adapte aussi avec la société.
Je sens qu'on aurait dû faire ce débat. On le fera une autre fois, je vous promets.
Fois.
On a notre gagnant. Mathieu, vous êtes en ligne avec nous. Vous avez gagné l'iPhone 8 reconditionné, offert par Remade et Sud Radio. Vous êtes content?
Ouais, ravi. Merci beaucoup.
Bon.
Merci beaucoup.
Vous aviez déjà un téléphone?
Il est en très mauvais état, donc autant te dire que...
Le nombre de gens qui ont des téléphones en mauvais état, à chaque fois qu'on prend le gagnant...
On les tombe par terre, l'écran se fissure, non, vraiment, je suis arrivé. Ouais.
Mathéo essayait de me montrer son téléphone pour me dire que ça ne marchait pas. Bah, écoutez, merci Mathieu, et merci d'être fidèle à Sud Radio. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, pour cette semaine. Dans un instant, vous retrouverez Berkoff dans tous ses états. Le vendredi, désormais, il parle culture, ça va peut-être l'apaiser un petit peu. Il parle cinéma, livre, avec Céline Alonso. Au programme aujourd'hui, Elvis Presley, Whitney Houston et surtout Oscar Orson Welles, dont le film posthume va être diffusé le 2 novembre sur Netflix. Voilà.
Spécial mort,
voilà. Oui, c'est vrai, Elvis, Orson, voilà. Et puis, il vous propose aussi des bons plans pour le week-end dans toute la France. Que faire, que voir? Restez avec nous sur Sud Radio. Beaucoup, beaucoup de belles choses à découvrir. Merci à tous les quatre. On se retrouve lundi.
Merci.